Vous écoutez France Culture.
Studio 168, une émission proposée par Aude Lavigne, Xavier Delaporte, Tristan Francoz. Préparée par Marie Dalquier, réalisée par Thomas Beau.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Studio 168, nouvelle quotidienne nocturne de France Culture, tous les soirs entre minuit 10 et 1h du matin dans le studio 168 de la maison de la radio, mais pas à la table, sans micro fixe. On est installé dans un coin du studio, c'est donc un studio dans le studio, un canapé, quelques fauteuils, un petit îlot de lumière projeté sur la création contemporaine. Dans ce cas-là, de plus surprenant et de transversal aussi, les écrivains travaillent le son, les œuvres d'art deviennent des boîtes. C'est ça, Aude?
Oui, c'est ce qu'on verra avec un sacré emballeur ce soir, Fabrice Pelletier. Bonsoir, Fabrice Pelletier.
Bonsoir.
On est avec vous pour parler de plusieurs choses, en fait, parce que on fête l'ouverture de votre galerie. Galerie consacrée au packaging, à l'emballage.
L'emballage, oui.
Vous êtes vous-même designer, photographe, né en 1961 à Paris.
On donne même mon âge, donc.
Oui.
Bon, ça, on ne peut pas donner celui de Pierre Ménard, puisqu'il n'existe pas.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, moi, ce n'est pas un pseudo.
Oui, c'est vraiment
votre... Je m'appelle bien Fabrice Pelletier.
Vous avez fait l'école supérieure Estienne.
Oui.
Vous avez créé une boîte de design spécialisée dans la création de design packaging. Vous dites être l'un des pionniers dans le domaine.
Bon, je ne suis pas pionnier, mais puisque j'ai eu quelques personnes qui en ont fait avant moi. Mais le design packaging est un métier quand même assez neuf, puisqu'il a pris son essor avec l'avènement de la grande distribution. Donc ce n'est pas si loin que ça, c'est dans les années 60. Et vraiment, le gros boom de la création packaging commence dans les années 80.
Donc, c'est à partir du moment où les magasins deviennent en self-service?
Oui, donc le packaging, en fait, est à remplacer le vendeur pour la vente du commerce en libre-service, effectivement.
Alors, dans votre agence, vous avez créé le design de plus de 10 000 packaging.
Oui, j'en ai commis plus de 10 000, oui.
Alors, quel est celui qui vous a procuré le plus de difficultés?
Ah, j'ai pensé que vous alliez dire d'argent.
Non.
Je ne sais pas, le plus de difficultés, non, je sais.
Finalement, qu'est-ce qui est le plus dur à emballer? Qu'est-ce qui est le plus dur à emballer? Du liquide, le solide?
Le plus dur, celui qui est le plus dur à faire, c'est en fait le plus simple. C'est de réussir à faire quelque chose de simple, puisque un emballage, en fait, c'est un peu comme un timbre-poste où on a à dire en 0,25 secondes, parce que c'est à peu près le temps que nous laisse le consommateur en grande distribution pour prendre sa décision. Donc, un quart de seconde de dire l'essentiel, c'est-à-dire que je suis une soupe à la tomate, super bonne, avec des tomates très fraîches, tout ça au milieu d'un brouhaha immense de la concurrence. Donc, c'est réussir à faire simple, c'est-à-dire aller à l'essentiel. Quand on a un client qui veut tout dire, ça, c'est difficile. Mmh. C'est ça, la vraie difficulté du packaging.
Mais alors, la question d'Aude, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à emballer,
Non, il n'y a pas de produit particulièrement difficile à emballer. Je n'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir d'avoir fait ce métier dans la douleur. Un peu comme Pierre Ménard, je m'éclate dans mon travail depuis 25 ans. J'ai même pas l'impression de travailler. Donc moi, je suis privé, je suis pas payé par l'État, mais...
Oh là là, la basse attaque.
Moi, c'est par une ville.
Moi, c'est par une ville, oui.
Là, c'est par une ville.
Alors,
par
donc,
contribuable, alors.
vous êtes vraiment un apôtre du packaging, en quelque sorte, puisque en créant cette galerie de design qui va vendre, donc proposer des bouteilles d'eau, des boîtes, vous essayez aussi de situer le packaging, donc ces emballages, au même titre qu'une œuvre d'art.
Alors ça c'est le
sujet
de l'exposition
qui est en ce moment
actuelle.
Dans votre
déjà,
galerie.
Déjà, à la Design Pack Gallery, le but n'est pas d'entre, puisque c'est une sorte de musée.
C'est un lieu d'exposition,
un lieu d'exposition avant tout,
d'accord,
qui est gratuit. Donc les gens rentrent, n'ont pas à payer.
Oui.
Les autres musées qui sont dans les alentours sont payants, parce que nous sommes rue de Richelieu. Le nôtre est totalement, totalement gratuit. L'idée, si vous voulez...
Mais dans les galeries, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on rentre gratuitement.
Oui, mais on achète des tableaux.
Si on veut prendre un tableau, on ressort.
Je ne les vends pas. Moi, on ne vend pas du tout les emballages. Les seules choses à vendre, c'est qu'à l'entrée de la galerie, il y a une librairie avec des livres exclusivement dédiés au graphisme et à l'emballage. Et puis, il y a un petit espace cadeau avec beaucoup d'objets recyclés faits à partir de recyclage d'emballage. Mais les expos sont gratuites. Mmh. Et l'objectif était d'essayer de mettre en lumière un objet tellement quotidien qu'on ne le voit plus, puisque l'emballage est quelque chose d'extrêmement quotidien. On en utilise à peu près 4 par jour, en moyenne. Et on se rend pas compte que derrière ces emballages, y a de la créativité, il y a de l'ingéniosité. Et d'ailleurs, je fais le parallèle dans le livre « Art, échange créatif » à ce qu'on trouve au musée du Louvre. Quand vous allez dans le département des antiquités du musée du Louvre, aussi bien chez les Grecs, chez les Étrusques, qu'est-ce que vous trouvez en fait essentiellement ?
De l'emballage. Emballages. Des amphores.
Voilà. Non, mais attendez. C'est pas du,
Fabrice
la décoration, Pelletier. Ça n'est pas du packaging.
Non, je ne parle pas du tout de décoration. L'emballage n'est pas uniquement la décoration. L'emballage, c'est une forme. C'est d'abord un objet tridimensionnel.
Okay.
Et c'est aussi un objet décoré.
D'accord.
Les amphores grecques sont des objets tridimensionnels qui étaient destinés à contenir des aliments au même titre qu'une bouteille moderne ou qu'une brique d'aujourd'hui, et qui étaient aussi décorées. Elles étaient décorées. Et c'est d'ailleurs ces objets qui nous permettent aujourd'hui de comprendre les modes de vie, les modes d'alimentation des Grecs il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Et peut-être que les emballages aujourd'hui que nous jetons renseigneront dans quelques milliers d'années les gens sur ce que nous...
Paradoxe, Fabrice Pelletier.
Paradoxe. C'est attention, un métier de paradoxe.
Parce qu'aujourd'hui, précisément, on essaie de recycler l'emballage. Parce que
absolument.
Finalement, l'éco-design dont vous êtes un fervent partisan risque de détruire aussi les traces de notre civilisation.
Oui, mais il en restera toujours parce que je me suis posé cette question par rapport à ces amphores grecques et j'en parlais pas plus tard que tout à l'heure à un visiteur de la galerie en disant finalement ces amphores grecques qui ont été retrouvées et qu'on met dans le musée du Louvre. En fait, qu'est-ce que c'était ? C'était des amphores qui ont été jetées. Qui ont été abandonnés comme ça, y compris la poussière, la terre. Et puis après, un archéologue les a retrouvés en grattant. Il y aura toujours des emballages qui vont être abandonnés dans un grenier et qu'on pourra retrouver dans quelques milliers d'années. Mais c'est vrai que le but et ce que nous recherchons aujourd'hui dans l'emballage, c'est effectivement de le recycler au maximum pour qu'il fonctionne en circuit fermé, mais tout ne sera pas recyclé.
Alors, dans l'emballage, puisqu'on vous aimez ça, vous montrez le rapport avec l'art, donc on peut voir comment, finalement, l'emballage, c'est aussi la société de consommation. Donc, comment est-ce qu'elle a influencé des artistes plus récemment? Comment certains ont utilisé des objets usuel pour en faire des œuvres d'art. C'est le but de cette exposition, de votre exposition, donc 24 rue de Richelieu. Vous dites en termes d'emballage que la boîte est une solution d'avenir.
Alors ça, c'est un autre ouvrage. C'est le deuxième ouvrage de la collection, puisque c'est l'ouvrage « Art, échange créatif » qui a servi de base à l'exposition est le quatrième de la collection. La collection a un autre ouvrage sur l'eau, qui s'appelle « L'eau, source d'innovation », qui traite de tout le caractère innovant de l'emballage. La boîte solution d'avenir est un ouvrage qui traite du caractère sociétal de l'emballage et qui explique comment l'emballage a contribuer à enrayer le scorbut, un certain nombre, la malnutrition et ce qu'il apporte au niveau social dans la société. Mais, et puis, le troisième ouvrage de la collection s'appelle Éco-design, chemin vertueux, et sur tout le caractère environnemental de l'emballage, et ça fera l'objet d'ailleurs d'une expo à la Design Pack Gallery
Mais c'est quoi du coup alors l'emballage du futur? Comment vous voyez
alors,
la chose
évoluer? Alors l'emballage du futur, c'est un énorme paradoxe que nous aurons à résoudre, nous, designers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'emballage doit protéger ce qu'il contient, garantir une sécurité alimentaire infaillible, vous rendre service, parce qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à ouvrir un emballage ou à bien le refermer, ben, vous n'êtes pas content.
Le lait, par exemple.
Voilà, le lait, si ça vous gicle partout au moment où vous l'ouvrez, si vous utilisez les dents, ce n'est pas fait pour ouvrir une brique de lait, donc il faut que ça s'ouvre bien. Faut aussi que ça soit pratique, ça se verse bien. Faut que, comme nous sommes des nomades, il faut qu'on puisse aussi le mettre dans notre sac à main. Il faut qu'on puisse s'occuper du bébé de la main droite et puis de la main gauche servir d'un emballage. Donc l'emballage doit vraiment se sophistiquer pour rendre service, garantir une sécurité et aussi il doit être le plus vertueux possible et avoir un impact minimum sur l'environnement en termes de ressources et en termes d'énergie de fabrication, d'empreinte de bilan carbone, et il doit être recyclable. Puisque l'emballage aujourd'hui est une des rares industries qui peut à terme fonctionner quasiment en circuit fermé, puisqu'on peut globalement recycler en théorie 100% des emballages que nous produisons et les remettre dans le circuit, soit en emballage, soit sur une autre forme de produit.
Fabrice Pelletier, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qu'est selon vous un emballage parfait, enfin nous nommer pas forcément que vous avez fabriqué d'ailleurs.
Hein, je ne l'ai pas encore créé, il n'existe pas.
Non, mais alors, que vous trouvez vraiment, vraiment accompli. Quelque chose qu'on connaisse, pas un objet.
Alors, j'ai une rubrique dans un journal qui s'appelle Emballage Magazine, où tous les mois, j'analyse...
Il y a un journal, donc, qui s'appelle Emballage Magazine.
Magazine.
C'est extraordinaire. Et... Pierre Ménard, je pense que vous avez travaillé là-dessus.
Je vous passerai toutes les pages 48, Pierre Ménard, d'Emballage Magazine. Et j'ai une rubrique qui s'appelle L'Emballage Harmonieux, où j'essaie, effectivement, parce que l'emballage réussi doit répondre aux quatre cycles de vie de l'emballage. Un emballage a un premier cycle de vie chez un industriel. Il sert à remplir une production et à assurer tout un circuit logistique. Ensuite, il a une vie dans un circuit de distribution où là, il sert à renseigner le consommateur à vendre. Ensuite, il a une vie chez le consommateur où il doit lui rendre service, s'ouvrir bien, pas tomber, pas gicler, etc. Et en fait, il a ensuite un quatrième cycle de vie qui est sa fin de vie où il doit pouvoir se jeter au bon endroit pour être recyclé.
Donc,
parce que je rappelle que 100% des emballages qui sont jetés dans la bonne poubelle sont recyclés.
Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ma question?
Alors, c'est vraiment un interrogatoire.
C'est pas un interrogatoire. Je pose une
j'ai pas
question,
pris mes notes. J'ai pas
rapproché la lumière.
Vous prenez
le patient.
Prenez la dernière salière de la baleine.
La petite triangulaire, là.
Oui, mais la nouvelle là, qui a été refaite, parce que la triangulaire était datée de 1962.
Ah d'accord, donc j'ai le même sel depuis 1962, oui. Je suis content de l'apprendre.
Donc elle a été refaite l'année dernière, à la fois en essayant d'intégrer tous ces paramètres. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'emballage est une industrie qui avance au quotidien. Donc aujourd'hui, quand je crée un emballage, j'essaie d'intégrer tous ces paramètres. Donc, j'ai presque envie de dire que l'emballage parfait, je ne l'ai pas créé et je ne le créerai jamais. Sinon,
non,
j'arrête mon métier aujourd'hui.
Donc, celui-là, vous trouvez que c'est une réussite?
C'est une réussite parce qu'on a mesuré tous les facteurs de succès de ce...
Dites-nous aussi, j'imagine qu'il y a des astuces pour faire que les 0,25 secondes soient rapides et qu'il y a des couleurs qui doivent marcher plus que d'autres. Il y a des attrapes nigo, comme on dirait, que
non, y a
dans
pas,
l'emballage.
Pas... Non,
mais eau de ouais. consommateur n'est pas un nigo.
Non, mais les designers sont tellement talentueux que...
Non, le designer n'est pas un magicien.
Est-ce qu'il y a des faux amis? Est-ce qu'il y a des faux amis pour le, finalement, pour le consommateur par rapport à l'emballage? Quelque chose qui fait croire que c'est mieux? Il y a des petites astuces comme ça.
Il ne faut pas se tromper. C'est pas le sujet, si vous voulez. Un consommateur qui recherche du sirop et qui veut de la grenadine, il ne veut pas acheter de la framboise, il ne veut pas acheter de la cerise, il veut acheter de la grenadine et il nous donne 0,25 secondes pour la choisir. Donc, nous, notre astuce, si astuce il y a, c'est de faire en sorte qu'il puisse la repérer le plus vite possible. Donc, ça passe par les formes, par les couleurs, par une bonne hiérarchie des éléments. Mais l'idée n'est pas de gruger qui que ce soit, c'est de faire en sorte qu'ils reconnaissent la grenadine que j'ai créée plus vite que la grenadine de mon concurrent.
C'est un bon exemple d'ailleurs, parce que la grenadine, c'est une chose, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc on est obligé de donner un imaginaire de la grenadine.
Oui, d'autant plus que la grenadine, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas la grenade, le fruit de la grenade. La grenadine est un mélange de fraises, de fruits rouges. Et il faut pouvoir le mettre. Mais c'est, à la limite, c'est, on peut dire aussi la même chose pour le beurre, entre le beurre salé et le beurre doux.
Donc il y a les couleurs, on met du rouge quand c'est du beurre salé, du bleu quand c'est du beurre doux.
Oui, parce qu'il y a des codes qui sont faits, qui sont des codes de marché, qui sont faits plus ou moins par les industriels. Effectivement, le but de l'emballage, puisqu'on est dans une situation concurrentielle, dans un supermarché, en moyenne, en 30 minutes de course, un consommateur est confronté à plus de 5000 produits en 30 minutes. Donc il faut pouvoir faire la différence et reconnaître tout de suite le produit dont on a envie.
Mais dans ce que disait Aude, il y a par exemple, je ne sais pas, quand on sent que l'ambiance est au goût pour des choses un peu passées, on sait que du coup on va donner aux emballages des aspects peut-être un peu plus vieillis.
Enfin, il y a quand même peut-être quelque chose. Peut-être même le fait de faire votre exposition aujourd'hui dans votre galerie montre bien que l'art peut être aussi finalement la reproduction de l'art, un produit d'appel pour le consommateur.
Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'un consommateur, vous pouvez l'avoir. Voilà, un consommateur, vous pouvez l'avoir une fois, mais je ne pense pas que dans le cadre de la laitière, ça soit le tableau de Vermeer qui fasse vendre les produits de la laitière. Les produits de la laitière se vendent et se réachètent parce que je pense que ce sont de bons produits. Et je ne travaille pas pour la laitière, donc je le dis en toute honnêteté. On peut effectivement gruger quelqu'un une fois en lui montrant quelque chose de magnifique, en lui promettant monts et merveilles, mais après il y a la réalité de l'utilisation.
Après, que ce soit la laitière ou Mère Denis, c'est à peu près la même chose, c'est une image traditionnelle finalement.
Oui, dans le cadre de la laitière, ça a été de quand ils ont sorti ces produits, ça a été de repositionner un produit sur quelque chose de traditionnel. Et Vermeer le faisait merveilleusement bien.
Et comme on peut voir, pour citer encore un ultime croisement entre produits de consommation courante et art, et qu'on peut voir dans votre exposition, tout simplement L'Oréal, Studio L'Oréal, qui ressemble évidemment, les gens peut-être imaginent, le voient, un tableau de Mondrian.
C'est une inspiration effectivement très claire de Mondrian, Studio Line effectivement.
Merci beaucoup.
Merci
Fabrice Pelletier. Donc l'exposition qui a lieu dans votre galerie.
24 de Richelieu jusqu'au 24 janvier.
Et votre livre Art Échange Créatif qui est publié chez Pyramide IDEPAC. Merci beaucoup Pierre Ménard. Vous n'êtes pas le vrai auteur du Quichotte, mais vous êtes...